Média. Podcast.
C'est avec un énorme plaisir que je vous retrouve sur Média pour cette nouvelle escale culture au cœur de l'Afrique.
Média Amna, l'Afrique en culture.
Et dans quelques instants, nous parlerons des tempêtes. Ce film signé Dania Raymond et qui revient et bien sur cette histoire entre fiction et réalité, celle d'étranges tempêtes de poussière jaune qui vont s'abattre sur la ville avec Nasser, un journaliste qui va couvrir le phénomène et bien pour son journal alors que les événements inexpliqués et bien arrivent à la chaîne. Nous parlerons également de l'exposition Femmes qui a ouvert ses portes à Paris, qui met en avant les artistes africaines et afro-descendantes. Et c'est Pharrell Williams qui est le commissaire priseur de cette exposition. Alors, surtout Pharrell. Nous parlerons également encore une fois cinéma avec ce film tunisien qui nous a fait vibrer, Red Path, ou plutôt Les Enfants Rouges, l'histoire d'un jeune berger qui est assassiné, exécuté par des djihadistes. Véritable plongée onirique dans la psyché blessée d'un enfant et de son incroyable capacité à surmonter ce traumatisme. Voyage initiatique cinématographique signé par Lotfi Achour. Et avant toute chose, comme promis, place à notre invitée du jour. Elle est réalisatrice, elle s'appelle Dania Raymond. Et on revient donc sur un film au genre trouble comme son histoire, mais dans le bon sens du terme. Un film sur le seuil entre réalité et fiction. Signé Dania Raymond, ce film nous parle de ces étranges tempêtes de poussière jaune qui vont s'abattre sur la ville. Nasser, journaliste, couvre l'événement pour son journal, mais les événements inexpliqués se multiplient. D'ailleurs, sa femme Fajar réapparaît alors qu'elle était censée être morte. Face à des vents de plus en plus menaçants et redoutables, la ville sombre peu à peu dans une sorte de folie commune. On en parle avec Dania Raymond, la réalisatrice des tempêtes.
C'est le pays des retrouvailles et de l'oubli. C'est un peu comme ça qu'on a nommé cette terre fictive quand on a été un peu contraint de délocaliser notre tournage au Maroc.
Je sais, oui.
Le film, il est arrivé d'abord par des images, des images de poussière jaune étalée sur le terre, une image de tempête, des revenants. Et c'est en écrivant, en investiguant avec mon personnage principal qui est devenu journaliste, que j'ai compris qu'en fait, j'avais envie de regarder vers les morts. C'était ces morts qui revenaient avec ce nuage de poussière, c'était ceux de la décennie noire algérienne.
Voilà.
Et je pense que c'était tout simplement lié au fait que j'avais pris la décision de retourner filmer à Alger, ma ville natale, et que ce retour a suscité l'arrivée des revenants. Et j'ai dû à mon tour regarder vers ce passé.
Et quand vous dites revenant, et vous faites bien de le souligner, on devine que c'est l'Algérie, que c'est Alger, sans pour autant être nommé ainsi. Est-ce que pour vous, c'était aussi par rapport à votre histoire à vous, par rapport au fait que vous soyez né d'un mariage mixte, est-ce que c'était important? C'était aussi une démarche, entre guillemets, personnelle aussi?
Oui, bien sûr que c'est une démarche personnelle. Moi, j'ai quitté Alger dans un contexte politique compliqué. Donc, je pense qu'il y avait des choses de cette histoire, de ce départ, puis aussi à l'échelle plus grande de l'histoire collective du pays qui n'avait pas été complètement formulée, intégrée, traversée.
Oui.
Et je pense que par le cinéma, on ne peut pas vraiment... en tout cas, moi, le cinéma, je le fais à un endroit de nécessité très fort. C'est pour moi un endroit de vérité. Et qui est lié aussi au regard, au fait de regarder. Et le fait de regarder, en tous les cas, pour moi, ça convoque un endroit de nécessité, de vérité, et j'espère aussi pour le spectateur. Et donc, forcément, j'ai dû regarder vers cette histoire, vers cette mémoire que je porte.
Cette mémoire que vous portez, c'est vrai que dans le film, voilà, les morts et les vivants se côtoient. Mais finalement, on ne sait pas qui est vraiment mort, qui est vraiment vivant. C'est très trouble. Et puis, ça m'a rappelé un film, Le Temps des Gitans, de Emir Kusturica, où à un moment, il y a cette phrase qui me restait depuis mon enfance, les morts avec les morts et les vivants avec les vivants.
Ben oui.
Et bien je sûr. Me dis que cette lisière, finalement, ouais. elle est très fine, elle est très oui. ténue. Et ouais. C'était volontaire pour vous ?
Alors, pour vous donner une anecdote qui... je pense est assez révélatrice de comment le film s'est construit et comment cette frontière entre les morts et les vivants est vraiment au cœur du film, c'est qu'au début, voilà, je savais qu'il y avait des revenants, au début de l'écriture, je savais qu'il y avait des oui. revenants dans ce film, mais je ne savais pas comment, c'était la tante de Yacine, du neveu, qui était morte, et je ne savais pas comment la représenter. Est-ce que ce serait une silhouette éthérée ?
Oui.
Est-ce qu'elle viendrait juste le hanter dans ses rêves ? Est-ce que elle viendrait la nuit ? Elle serait... Enfin voilà, je cherchais comme voilà, il y a plein d'exemples dans l'histoire du cinéma de comment représenter un mort. C'est une question très concrète. Mais ça, j'étais pas convaincue par toutes ces solutions. Ça me D'accord. plaisait pas. Et c'est vraiment, en fait, Et à côté de ça, j'essayais d'investir le personnage de Fajar, la compagne de Nasser, qui était oui. vivante à ce moment-là de l'écriture. Mais j'arrivais pas à l'investir, ce personnage. Et une nuit, je me suis réveillée et je me suis dit « Oh, mais en fait, c'est elle qui est morte !» Et en fait, je me suis dit « Ah, ils sont là, en fait, les morts, j'ai pas besoin de les convoquer dans les là. Rêves, dans les machins, dans les trucs, ils sont là. Le seul problème, c'est qu'ils savent, comme moi, ils sont pas au courant qu'ils sont morts. » Et en fait, du coup, voilà, la solution est arrivée comme ça, et je me suis rendu compte bah, que cet endroit, cet espace cinématographique qui s'ouvrait et qui s'est aussi incarné dans cette terre fictive, c'était un endroit pour permettre aux vivants et aux morts de se retrouver, de prendre conscience de la réalité de leurs conditions et de se dire au revoir, pour que chacun de son côté, sans oublier, sans effacer, mais chacun de son côté puisse reprendre sa place.
Est-ce que c'est pas non plus aussi une métaphore à peine voilée de ce qui s'est passé en Algérie ?
Oui, bah alors ça c'est aussi pareil. J'en ai un peu pris conscience en tous les cas en écrivant, voilà, parce que moi je suis vraiment partie des choses concrètes, quoi, de mes personnages. Mais c'est vrai que je me suis dit oui, pourquoi est-ce que ces personnages me sont venus comme ça, rattachés à ce territoire-là ? Et en tout cas, potentiellement, je pense qu'il peut y avoir des liens. C'est vrai que la guerre de la décennie noire, elle s'est terminée par une loi de réconciliation nationale qui a eu le grand mérite de mettre un terme aux violences armées et de faire cesser les armes.
Oui.
Néanmoins, je pense qu'elle n'a pas tout résolu parce Bien que c'est quand même un événement historique complexe qui va prendre
douloureux.
Du temps, douloureux, oui. très douloureux, oui. qui est encore très récent. Et je pense que peut-être cette loi, elle n'a peut-être pas assez pris en considération la question des morts. Ils ne sont pas vraiment pris en compte, ou des disparus même, parce qu'il y en a eu beaucoup. Ils ne sont pas complètement pris en compte à la mesure, je pense, de l'importance.
Ils ne sont pas reconnus, nommés.
Oui, voilà. Et je pense qu'il y a peut-être un manque à cet endroit. En tous les cas, ça renvoie chacun à la question de son deuil intime, de son
Exactement,
deuil personnel
oui.
face aux pertes. Pas forcément des morts, d'ailleurs. Que l'on ait perdu quelqu'un de proche ou pas, je pense qu'on a tous perdu quelque chose
Parfois
dans
même
cette
de nous,
époque.
Oui.
oui, on a tous été entamés par
des
par,
gens qui ont dû partir
par ces événements.
Aussi.
Et maintenant, je pense que chacun, dans son intimité, doit recomposer avec ça.
Et dernière question, on en parlait juste avant de commencer l'interview. En regardant le film, même si on n'a pas le nom de la personne qui est derrière, dès les premières images, on dit que ça doit certainement être une femme. Il y a cette sensibilité, il y a cette finesse
ah ben merci.
Qu'on ne retrouve pas. Ce n'est pas une critique, hein. Les hommes ont d'autres qualités cinématographiques. Il y a des hommes aussi comme des Almodovar qui assument totalement leur part de féminité. Ça se ressent à l'écran, il ne faut pas se mentir. Il y a des hommes qui font des choses fabuleuses et qui adorent les femmes, François Ozon, Almodovar et ouais, j'en sûr. Passe. Quelle est pour vous la différence primordiale entre un cinéaste homme et une cinéaste femme ? Que ce soit autant dans l'écriture ou sur grand écran. Moi, c'est une question qui me fascine et que je pose à chaque fois que j'ai une cinéaste femme.
Je pense que c'est une question très complexe. Moi, je ne suis pas trop pour généraliser. en tant que cinéaste, j'essaye aussi de pas me poser la question de mon genre. Je pense que ce qui compte, c'est de trouver vraiment sa propre singularité, sa propre écriture. Moi, j'ai fait ce film avec une nécessité intime très forte. Et j'essaie je sais que la manière dont il a été écrit, elle est particulière. Ça fait un scénario qui peut être déstabilisant parfois pour certains spectateurs, parce que l'intrigue est très ténue. J'ai laissé beaucoup de place à l'atmosphère. On se perd dans le film parce qu'on suit plusieurs personnages. Les liens sont peut-être moins renforcés, moins articulés que si j'avais décidé je vais raconter cette histoire. Voilà, moi en tout cas pour ce film là ça s'est pas passé de cette manière, et j'ai essayé de trouver une forme, une écriture qui reste proche de la manière dont le film est arrivé, très doucement, très de manière avec beaucoup d'intuition, de vision, voilà, inconsciente, ouais. Voilà, en tous les cas, pour ce film-là, c'est comme ça que ça s'est fait. Maintenant, je pense que chaque film est une nouvelle histoire. Donc, on verra. Mais je pense qu'en restant proche de sa singularité, ça, c'est un vrai défi, je pense, de cinéaste.
Je pense que vous avez raison, oui. Au-delà du genre, c'est vraiment donner parole à cette part de masculinité et de féminité, finalement, qui nous habite tous.
Oui, et puis de singularité, quoi, vraiment.
Ce qui fait qu'on est Dania,
chaque être, Raymond,
oui, bien sûr. Ouais. En tout cas, bravo.
Merci beaucoup.
Et merci infiniment. Bon
merci
courage.
À vous.
Merci. Et avant de parler encore une fois cinéma avec le film de Lotfi Achour, Les Enfants Rouges, je vous propose tout de suite une petite pause musicale avec l'artiste marocaine Sonia Nour qui nous régale avec Dawini. On se retrouve juste après. Dawini, Sonia Nour qui nous régale tout de suite. Eh bien, nous parlons cinéma encore une fois dans l'Afrique en culture avec les enfants rouges. Alors qu'ils font paître leur troupeau dans les montagnes, deux adolescents sont tout simplement attaqués par des djihadistes. Nizar, 16 ans, est exécuté tandis que Ashraf, 14 ans, doit rapporter un message macabre à sa famille. Inspiré de faits réels, les enfants rouges est avant tout une plongée onirique dans la psyché blessée d'un enfant et de son incroyable capacité à surmonter ses traumatismes.
ربط نزار وضربوني سألوا برا سؤالات النزار أما نزار ما يحبش جوابها، قال لي باش تولها لي بكلابير. قال لي بوس لي مام.
خويا مش مصدق.
Voyage initiatique hors du commun où l'innocence est confrontée à l'horreur, l'enfance au monde adulte, l'amitié à la mort, brillamment filmé par le réalisateur tunisien Lotfi Achour. Cette histoire nous prend tout simplement aux tripes, s'emparant d'un fait réel qui a traumatisé la Tunisie une quinzaine de jours avant l'attentat du Bataclan en France. Lotfi Achour réalise un travail avant tout de mémoire. Ce film est tout simplement dernier que nous vivons aux côtés des Tunisiens, les 24 heures chrono qui ont suivi l'attentat dans une région reculée de la Tunisie. Lotfi Achour nous régale, il dépasse le choc pour ne garder finalement que l'émotion qu'il arrive avec beaucoup de délicatesse d'apporter à l'écran dans un véritable suspense tragique. Comme il le dit, tu as ouvert la porte de l'enfer et tu nous as abandonnés. Par cette seule réplique, c'est absolument la sidération d'un pays tout entier que le cinéaste nous livre. Il nous fait vivre à travers la psyché du jeune Achraf, la perte des repères, et nous communique à travers la dignité du clan, le courage, la solidarité, la résilience qui finalement les sauve de leur propre détresse. Et avant de nous quitter dans l'Afrique en culture cap sur la ville lumière, on va à Paris pour cette exposition baptisée sobrement Femmes, Femmes au pluriel, et qui est consacrée aux femmes africaines mais également aux femmes afro-descendantes. Et le commissaire priseur n'est nul autre que Pharrell Williams. 39 créatrices africaines sont à l'honneur, dont Johanna Choumali ou encore Betty Sarr au talent émergent. Bref, vous aurez le choix, une exposition riche, poétique et engagée, bien ancrée dans le 21e siècle, qui sera celui de la diversité ou ne le sera pas. C'est jusqu'au 19 avril à la Galerie Terrentin dans le centre de Paris. Et c'est ainsi que se clôture Afrique en culture. Merci d'avoir été avec nous, et en clôture avec Pharrell Williams, tant qu'à faire. Merci d'avoir été avec nous, et n'oubliez pas, l'Afrique en culture, c'est toujours en avant-première sur Média Podcast.